Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi 2 novembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Les déclarations des Occidentaux ne collent pas à la réalité, selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. L'Iran et la Chine partagent une position commune sur l'illégalité des sanctions unilatérales et US. Les terroristes transférés de Syrie vers l'Afghanistan. Le plan de déploiement de missiles US en Europe est un grand danger et une menace, selon le président russe Vladimir Poutine. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. L'Iran a rejeté lundi la déclaration commune de quatre pays occidentaux sur le nucléaire iranien, considérant qu'elle ne collait pas à la réalité, réaffirmant le caractère pacifique de son programme nucléaire. En marge du sommet du G20 à Rome, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis avaient affiché en fait leur inquiétude face à ce qu'ils appellent le rythme accéléré des mesures prise par l'Iran dans le domaine nucléaire. La diplomatie iranienne a rejeté ces accusations sans fondement. La production d'uranium métal et d'uranium hautement enrichi, comme déjà affirmé par le passé, est faite à des fins pacifiques et à des usages civils, a réagi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. Il convient donc de noter que de telles positions ne collent pas à la réalité et n'apporteront pas de résultats constructifs, a-t-il souligné encore. Ali Borelli, vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, a eu une conversation téléphonique avec son homologue chinois pour souligner la nécessité de lever les sanctions américaines. Au cours d'une conversation téléphonique fructueuse et cordiale avec le ministre adjoint des Affaires étrangères de la Chine, j'ai apprécié la position positive et l'engagement constructif de la Chine, a déclaré Ali Borelli, vice-ministre iranien des Affaires étrangères. L'Iran et la Chine, en tant que partenaires dignes de confiance, partagent une position commune sur l'illégalité des sanctions unilatérales américaines et l'importance de l'état de droit dans les relations internationales, a ajouté le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. La levée des sanctions contre les individus et entités iraniens et des tiers et les garanties qu'ils ne se répètent pas ont été soulignées, a-t-il ajouté encore. La Turquie a déporté des centaines de terroristes et des organisations Jundalsham et Jundala vers l'Afghanistan, a révélé le journal syrien Al-Watan, citant des sources de l'opposition proche des milices pro-turques. Les services de renseignement turcs, avec la médiation du Parti islamique du Turkistan, ont organisé la déportation de centaines de terroristes des organisations Jundal Sham et Jundal At, qui avaient été expulsés par Hayat Tahrir al-Sham de la montagne des Turquements vers l'Afghanistan, a écrit le journal. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. L'Occident trame des projets d'installer des éléments de défense antimissile et globale aux frontières de la Russie dans une tentative de briser la parité, ce qui représente un grand danger et une menace pour la Russie, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion consacrée au renforcement de la marine et des forces aérospatiales du pays. Alors que Washington brandit le projet de déploiement de ses missiles en Europe, Vladimir Poutine a constaté que c'était une menace pour la Russie lors d'une réunion, la première d'une série avec les responsables du ministère de la Défense et de l'industrie militaire. Nous savons que de trop bien que certains de nos collègues étrangers n'abandonnent pas leur tentative de briser la parité, notamment en déployant des éléments de défense antimissile et globale à proximité de nos frontières. Il est impossible de ne pas remarquer ces menaces à la sécurité de la Russie et nous y réagirons de manière adéquate, a déclaré le président russe Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, avait lui aussi précédemment exprimé son inquiétude au sujet de l'intention déclarée par Washington d'installer des missiles en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Il avait également qualifié de regrettable et triste le fait que les États-Unis et l'Occident n'acceptent pas la proposition de Moscou de proclamer un moratoire sur le déploiement de missiles à courte et moyenne portée en Europe. L'armée burkinabé a annoncé que plus de 400 militaires avaient été tués dans des attaques terroristes dans plusieurs localités du Burkina Faso depuis 2015. Depuis 2015, plus de 400 militaires ont perdu la vie dans des attaques terroristes alors qu'ils luttaient pour la défense de la patrie, a déclaré le commandant de gendarmerie nationale, également responsable de la communication et de la gendarmerie nationale de Guy Harvey-Yeh. À l'occasion de la cérémonie marquant le 61e anniversaire de l'armée burkinabé, retransmise à la télévision publique, l'armée a rendu hommage à ses militaires ayant perdu la vie en défendant la nation. Outre les militaires, plusieurs paramilitaires, des civils armés pour appuyer l'armée et des civils ont également été tués depuis le début des attaques terroristes de 2015 au Burkina Faso. Le Conseil présidentiel libyen appelle un consensus national sur les lois électorales. Abdallah Hussein Al-Lafi, vice-président du Conseil présidentiel libyen, a souligné l'importance de parvenir à un consensus sur les lois électorales entre les différents partis du pays. Au cours d'une conférence de presse dans la capitale Tripoli, M. Lafi a exprimé son soutien aux élections générales du mois prochain et a parlé d'une initiative qu'il a récemment proposée pour résoudre l'impasse politique à l'approche des élections. Il a présenté l'initiative visant à réunir la Chambre des représentants et le Conseil d'État pour parvenir à un consensus sur les lois concernant les élections présidentielles et législatives sur lesquelles les deux partis sont en désaccord. Un consensus parmi les partis politiques est la meilleure façon d'assurer le succès des élections, a-t-il souligné encore. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique, plus précisément en provenance de la Libye, où il y a des appels qui sont lancés pour parvenir à un consensus sur les lois électorales, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique, qui porte sur, en fait, une information donnée par un quotidien syrien comme quoi les terroristes sont, en fait, transférés de Syrie vers l'Afghanistan. Les terroristes transférés de la Syrie vers l'Afghanistan, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. La Turquie a déporté des centaines de terroristes des organisations Jundal Sham et de Jundallah vers l'Afghanistan, a révélé le journal syrien Al-Vatan, citant des sources de l'opposition proche des milices pro-turques. Les services de renseignement turcs, avec la médiation du Parti islamique du Turkistan, ont organisé la déportation de centaines de terroristes des organisations Jundal Sham et de Jundallah qui avaient été expulsés par Hayat Tahrir al-Sham de la montagne de Turcoman vers l'Afghanistan, a écrit le journal. Ces deux milices terroristes takfiris, dont les membres sont majoritairement de nationalité étrangère, tchétchène et azerbaïdjanaise, surtout avaient été délogés la semaine passée de la montagne de Turcoman, située au nord de la province syrienne de Latakia, par lors de alliés alias Front al-Nusra, branche d'Al-Qaïda en Syrie. Selon les sources du journal syrien, un accord a été conclu avec ces groupuscules terroristes pour leur évacuation avec la médiation du Parti islamique du Turkistan qui a contacté les dirigeants talibans en Afghanistan pour obtenir leur consentement. Les efforts de médiation ont abouti à l'acceptation par les talibans de l'initiative concoctée par les services de renseignement turcs avec le soutien de hauts responsables turcs, indiquent les sources précitées. L'objectif du président turc Recep Tayyip Erdogan serait entre autres d'étendre le contrôle de la branche syrienne d'Al-Qaïda sur toute la zone de désescalade dans la province d'Idlib pour redorer son image auprès des pays occidentaux. Sa présence deviendrait un fait accompli dans les règlements futurs de la région, toujours selon ces sources. Les mêmes sources ont révélé que des dizaines de terroristes ont traversé le passage illégal de Khirbet al-Jawz dans la montagne occidentale de Jisral-Shorour vers le territoire turc pour les emmener en masse en Afghanistan en attendant le transfert du nombre restant des terroristes convenus dans l'accord. De même, les sources de l'opposition ont indiqué au journal Al-Vatan que le retour viendra pour le reste des organisations terroristes de la région afin de les séparer du front al-Nusra et du reste des milices soutenues par Ankara. Selon elle, cette mesure répond aux dictats de Moscou qui font pression pour la mise en œuvre des accords bilatéraux conclus entre les deux pays qui stipulent d'expulser les organisations terroristes de la zone de désescalade et de ramener l'activité sur l'autoroute Alep-Latakia.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron, de la façon dont cette rencontre s'est déroulée et bien sûr ses répercussions. L'opposition française n'a pas hésité de qualifier cette rencontre de humiliante, de totale. Et justement, pourquoi ? Car la crise des sous-marins de l'Australie, un contrat important militaire volé sous le nez de la France par les États-Unis, a rendu évidemment la France très en colère. Mais pas suffisamment, semble-t-il, car Emmanuel Macron a déclaré que cette crise diplomatique était derrière eux. Alors, l'opposition a également dit que les États-Unis se sont essuyés les pieds sur la France. Des mots très durs pour la France qui donc semble passer très facilement. Car nous allons voir justement dans ce débat ce qui a poussé la France à oublier si facilement ce coup dur porté à son économie militaire par les États-Unis. Des experts des questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Lors d'une rencontre avec Joe Biden, Emmanuel Macron a laissé entendre que la crise diplomatique était derrière eux et que désormais c'était l'avenir qu'il fallait regarder. Une séquence diplomatique critiquée par une partie de l'opposition. Quelques semaines après la crise des sous-marins australiens, lors de leur rencontre le 29 octobre à Rome, les présidents français et américains ont fait part de leur enthousiasme quant à la bonne évolution des relations entre leurs deux pays. Comme si le camouflet n'était qu'un lointain souvenir, Emmanuel Macron a joué l'apaisement. « Nous avons clarifié ce que nous avions à clarifier », ainsi déclarait le président français, puis d'ajouter avec optimisme « C'est l'avenir qu'il faut regarder. » Joe Biden a confessé pour ses parts que les États-Unis avaient été maladroits avant de donner une étape amicale à son interlocuteur. Une séquence diplomatique fortement critiquée par de nombreux membres de l'opposition. À gauche, le sénateur du Parti socialiste, Rachid Temal, s'est questionné sur les propos du président américain qui évoque une simple maladresse dans ce dossier. J'imagine si les États-Unis avaient été habiles alors. Tout cela ressemble bien à une deuxième humiliation, sans broncher, a dénoncé sur Twitter le parlementaire. Le sénateur PS et porte-parole d'Arnaud Montebourg, Michael Vallée, est pour sa part revenu sur la déclaration de Joe Biden qui a également assuré que la France était l'allié le plus ancien et le plus loyal des États-Unis. Je vous raconte pas si on n'avait pas été le plus ancien et le plus loyal, a ironisé le parlementaire. Le président de République souveraine et candidat à l'élection présidentielle de 2022, Georges Kuzmanovic, a évoqué une farce. Il a également considéré que Macron n'avait pas réagi en président d'une nation indépendante lorsque les États-Unis se sont essuyés les pieds sur la France lors du scandale des sous-marins. Le maire LR des Maisons Lafitte, Jacques Millard, a vu dans la rencontre entre Emmanuel Macron et Joe Biden comme du cinéma hollywoodien avec des larmes de crocodile du côté américain et du « Embrassons-nous, Folleville » côté Macron, qui proclame « Regardons l'avenir », lequel sera à l'aune de la volonté de Washington.
Chers amis, vous regardez l'émission Le Débat à présent. J'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux invités, en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. Monsieur Dortiguier, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour. Je vous entends, oui. Et je vous salue ainsi que vos invités et votre invité et tous nos auditeurs.
C'est un plaisir de vous recevoir, Pierre Dortiguier. Un grand bonjour également à monsieur Fabrice Béor, expert à l'ONG EOD depuis Moscou. Bonjour monsieur Béor.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, ma première question va s'adresser à vous, M. Fabrice Béor. Alors, l'opposition très en colère, l'opposition française à l'égard de cette rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron, alors qu'on s'attendait à ce qu'après la crise diplomatique, c'est-à-dire les sous-marins de l'Australie, un contrat très important volé sous le nez de la France par les États-Unis. Au lieu de cela, Emmanuel Macron, au lieu d'exercer sa colère, rencontre Joe Biden comme rien ne s'était passé.
Cette affaire, c'est une farce et révélateur de la nature aujourd'hui, non pas de l'État français, mais de la classe politique française en général. Je m'explique en deux points très rapidement. C'est une farce entre Macron et Biden, parce qu'on sait très bien que la France Après, ces cris de coq effarouchés s'est totalement aligné, allongé face à la volonté américaine. Aucune compensation, même d'un point de vue, on va dire, médiatique, de communication, ça fonctionne très mal, parce qu'on voit bien que c'est simplement que la France s'est totalement alignée. Mais devant les cris d'Orphée, c'est le deuxième point que je veux aborder, qui est à mon avis le plus intéressant en réalité. C'est, on voit beaucoup d'hommes politiques français, dans même d'ailleurs au niveau de la majorité, on va dire, et de l'opposition, critiquer effectivement cette position américaine. Mais pour autant, ils ne se posent jamais la question pourquoi la France voulait vendre des sous-marins à l'Australie et se mettre à dos la Chine. Quel est l'intérêt de la France dans l'histoire? Aucun, à part si ce n'est l'alignement à la politique américaine. Donc, aujourd'hui, on voit ces gens s'offusquer d'avoir un comportement et que la France s'aligne totalement sur les États-Unis, mais la France est dans l'OTAN. Elle est dans un état de soumission. S'ils étaient logiques, ils devraient réclamer le départ de la France de l'OTAN et non pas du commandement intégré, comme par exemple le candidat soi-disant souverainiste M. Zemmour. Donc je résume, c'est une comédie effectivement, c'est un théâtre démocratique diplomatique qui ne cache pas la vassalisation de la France dans le cadre de l'OTAN, et on voit cette classe politique en général, même d'opposition, qui ne remet pas en cause la raison justement de cette situation, à savoir que la France est dans l'OTAN et que donc elle se soumet à la politique américaine. C'est ça la vraie question, et pourquoi continuer à être dans l'OTAN lorsque les États-Unis traitent de cette façon, et en plus, la France, quand elle-même, la classe politique française, essaye de s'extraire de cette politique américaine, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle y plonge encore plus en voulant vendre des sous-marins à un pays qui est en fait une extension de l'armée américaine pour faire face, d'un point de vue militaire, à la Chine, quelque chose qui cloche, allons-nous dire. Mais peut-être faudrait-il comprendre que la classe politique française, qu'elle soit dans l'opposition au gouvernement, fait partie de ce qu'on appelle le parti américain. Après, c'est juste une question de nuance, et on place l'élément qui permet de savoir si on est plus ou moins atlantiste ou pas. Mais ça ne change pas le fond. Le problème de la France, c'est qu'elle est atlantiste.
D'accord. Pierre Dortiguier, vous êtes politologue depuis Toulouse. Merci d'être avec nous déjà. Alors, Pierre Dortiguier, il semble que la France s'est habituée à être trahie par les États-Unis, car après cette rencontre, on se rend compte que la France n'a rien à dire et dit tout simplement que cette crise diplomatique qui existe toujours est derrière eux.
Oui, c'est-à-dire que j'ai très bien entendu ce qu'a dit notre correspondant de Moscou. Je pense que je suis d'accord avec lui sur ce parti américain qui est général, que ce soit celui du gouvernement ou celui de l'opposition. Je fais d'ailleurs remarquer que le Parti socialiste, hein, qui a été cité, a été un des plus pro-américains de toute l'histoire. Disons que c'est lui qui nous a, avec Mitterrand, par exemple, demandé en 1966, je m'en souviens très bien, protester, demander, disons, notre maintien dans l'OTAN. Bon, dans ce centre de, disons, dans cette alliance militaire. Je relève aussi, permettez-moi avant de répondre, que dans cette affaire des sous-marins, il est certain que la France n'a pas protesté, par exemple, contre le fait, n'a pas refusé, disons, de rentrer dans une alliance dirigée, bien sûr, comme tout, chacun le voit, contre la Chine, c'est vrai. Sur le fond technique, sur le plan technique, je crois que les Français ont eu tort, quand même, ça se n'est jamais relevé, c'est-à-dire que nous avons proposé des sous-marins à propulsion diesel, alors que l'armée, les militaires australiens demandaient des sous-marins à propulsion nucléaire pour l'horizon, disons, 2030-2050, comme l'a très bien expliqué, d'ailleurs, un responsable militaire. De ce côté-là, je dois dire que par réalisme, je dis bien par réalisme, je trouve que ce sont les Australiens, bien sûr, qui ont raison. Et nous aurions adopté la même attitude, d'ailleurs, si ça avait été l'inverse. Il faut donc voir, disons, quel est le sens de ces relations entre les États-Unis et la France. Ces relations ont été d'abord demandées par les Français eux-mêmes. Il faut le dire, il faut remonter très loin, à la fin de la guerre de 1914-18, quand nous avons nous avions de la peine à soutenir les forces de guerre. C'est nous qui avons fait entrer les Américains, évidemment, dans cette guerre mondiale. Et nous avons ensuite bien admis les Américains dans la Seconde Guerre mondiale. Bien, tout ceci, disons, mériterait d'être revu en entier, toute une vision de l'histoire à revoir. Et il est certain que nous sommes enchaînés pour toujours, par le destin, je dirais, à la politique américaine. Celui qui a essayé de s'en extraire partiellement, ça a été le président de Gaulle. Et évidemment, qu'est-ce qu'il a eu comme réponse? La GIF de 1968, organisée par la gauche et le Parti socialiste. Évidemment, il a été obligé de démissionner dans des conditions d'ailleurs honteuses. Bien, honteuses pour la France, je veux dire. Ceci dit, nous sommes enchaînés donc à cette politique. Je crois que les protestations dont on fait état, venant du Parti socialiste en particulier et d'autres, ne sont que des manifestations préélectorales, voyez-vous. Ce qu'il y a, c'est que la France devrait, c'est ma conclusion, justement essayer de retrouver ce qui a été un peu notre politique entre les années 1964 et 1966, c'est-à-dire trouver une défense commune, par exemple envers l'Allemagne. Mais malheureusement, ces pays-là, l'Allemagne en particulier, a été soumise justement à des contraintes, voyez-vous, a été humiliée sur le plan politique. Donc nous retrouvons seuls, si nous retrouvons dans l'incapacité, je dirais idéologique, l'incapacité même matérielle à assurer notre propre indépendance. Et ceci est un destin. Je veux dire par destin que c'est la conséquence de fautes accumulées depuis longtemps. La France est faible. Elle ne veut pas sortir de cette situation-là. Notre américanisation, entre guillemets, bien sûr, est un état d'esprit, voyez-vous. Que l'Amérique soit forte, c'est vrai. Que l'Amérique veuille commander à l'Occident, c'est un fait. Quels sont les responsables? Moi, je dirais que les responsables sont ceux dans la politique française qui, depuis, bien sûr, cette première guerre mondiale,
d'accord,
nous ont entraînés dans une fausse voie.
Tout à fait. Fabrice Béor, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Dortiguier quand il parle d'une politique enchaînée de la France envers les États-Unis? Est-ce que la France a le choix d'être un pays indépendant et loyal?
Enchaîné, oui. Est-ce qu'elle a le choix? Évidemment, elle a toujours le choix. On dit toujours, ils ne sont forts que de nos faiblesses. Il suffit d'affirmer, d'avoir confiance en soi, c'est déjà le premier pas vers la souveraineté. Le chemin vers la souveraineté, tout du moins. Maintenant, je ferai quand même remarquer une chose, c'est que beaucoup, et dans le cadre aujourd'hui de la campagne électorale présidentielle française qui est déjà entamée, que la France revenir à une neutralité de la France et qu'il faudrait qu'elle tienne la main à la Russie et puis en même temps aux États-Unis. Alors oui, ça c'était possible pendant la guerre froide. Ce n'est plus la guerre froide d'avant la chute de l'URSS, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les États-Unis, dans leur rapport avec, entre guillemets, leurs alliés, c'est un rapport de soumission. Il ne peut pas y avoir de juste milieu. Bien que le monde soit gris, pour eux, il est blanc ou noir. Tu es avec nous ou contre nous. Il ne peut pas y avoir même d'alliés de circonstance. Sauf qu'on le voit bien ce qui s'est passé en Afghanistan, on voit très bien ce qu'ils font avec leurs alliés de circonstance. Donc, aujourd'hui, une position qui se dit « je me dégagerai de l'OTAN, mais en étant toujours ami », c'est un peu comme si on disait « je suis ami avec Trump et je suis ami avec Poutine ». Mais ça, c'est quelque chose qui ne peut pas aller ensemble, puisque géopolitiquement, ce sont deux ennemis irréconciliables. La géopolitique, c'est pas l'idéologie, c'est pas l'opinion, c'est pas les sensations, c'est pas l'émotion. Ce sont des faits. Et les faits, surtout dans la géopolitique nord-américaine, qui est écrite noir sur blanc, mais beaucoup de Français, même de la classe politique française, ne lisent pas l'anglais, ou ne lisent pas du tout d'ailleurs, ne se rendent pas compte que, pour les États-Unis, aujourd'hui il y a la Chine évidemment, mais la Russie reste l'ennemi principal. Donc on ne peut pas être ami avec les États-Unis et avec la Russie. Donc si la France, pour revenir à votre question, veut être, retrouver son indépendance, elle doit sortir de toutes les structures qui l'empêchent d'être indépendant. Donc au-delà des institutions européennes, qui est un problème annexe, bien que ce soit aussi important, l'essentiel, puisque combien de chars, allons-nous dire, le problème, c'est l'OTAN. Il faut sortir de l'OTAN, pas du commandement intégré. On est dedans ou on est dehors. si on est dedans, autant être dans toutes les structures, comme à l'heure actuelle. Mais si on veut se soustraire à l'influence américaine, il faut en sortir intégralement, pas rester dans le commandement intégré comme ça l'était auparavant, et comme le proposent certains candidats à l'élection présidentielle. Et lorsqu'on en est dehors, évidemment, on devient un ennemi des États-Unis. Ce pourquoi la France doit à ce moment-là réorienter sa politique vers l'Est. Et vers l'Est, c'est vers le bloc eurasiatique, vers Moscou, vers Pékin, vers Téhéran. C'est cela, il n'y a pas d'autre choix possible. Les autres choix possibles, ce n'est que de la communication, ce n'est que du verbiage, mais ce n'est pas quelque chose de sérieux. On est aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a le bloc occidental et le bloc qu'on peut appeler de l'Est, que moi j'appelle le bloc eurasien, qui comprend donc les trois pays que je viens de citer, la Russie, la Chine et Téhéran, qui n'est pas, comme l'OTAN, un groupe avec des accords, on va dire, aussi forts qu'il puisse y avoir à l'OTAN, mais justement parce que c'est un bloc qui respecte la souveraineté de chacun des États, mais qui se soutient dans le cadre de la confrontation géopolitique actuelle. Et si la France veut être indépendante, elle ne peut être indépendante que si elle est proche de ce bloc eurasiatique. Et ça a toujours été, d'ailleurs, ses alliances en général dans le cadre de l'histoire européenne. Et depuis qu'elle a oublié, eh ben, effectivement, elle s'est soumise au vainqueur, à celui qui occupe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale l'Ouest européen et même maintenant, on va dire, l'Europe continentale. Et quand on est évidemment soumis aux décisions de l'OTAN, c'est-à-dire à la politique étrangère américaine, on ne peut prétendre, même en parole, d'être indépendant. La voie de la France est toute tracée. Soit c'est une voie d'accord avec le bloc eurasiatique, soit elle continue dans la soumission. L'entre-deux, ça n'existe pas aujourd'hui.
Très juste, Fabrice Péor. Pierre Dortiguier, un mot tout de même sur cette relation entre la Grande-Bretagne et la France. C'est vrai que tout récemment, les États-Unis se sont rapprochés de la Grande-Bretagne concernant les sous-marins de l'Australie. Et de l'autre côté, ils font semer la discorde entre la Grande-Bretagne et la France concernant la pêche. Et maintenant, ils s'approchent vers la France avec cette grande rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Réagissez-vous, je vous prie.
Politique, disons, peut-on dire anglo-saxonne envers la France, est classique, elle est continue. C'est-à-dire que les pays anglo-saxons ne cherchent que leurs propres intérêts. C'est exact. Ils l'ont montré, je parle toujours des deux guerres mondiales, ils l'ont montré ainsi. Et la France, disons, ne peut. La France, la question est la suivante. A-t-elle les moyens d'une ambition politique? A-t-elle la capacité industrielle, la capacité morale aussi de faire face à cela, de dominer, disons, de dominer une vision du monde? Je ne crois pas. Je m'explique. C'est-à-dire que nous réagissons, voyez, nous, bien sûr, mais nous n'avons pas les moyens de prendre des initiatives et d'agir. Ceci impliquerait une grande force dans le tissu industriel, une grande force également dans, peut-on dire, l'instruction publique, dans la formation idéologique, si je puis me permettre, dans le bon sens du terme. Or, tout ceci, nous n'avons pas. Nous sommes une société, en réalité, profondément, entre guillemets, je le répète, américanisée. Ça, c'est une grave faute. Et je crois que c'est sur ce plan idéologique, c'est sur ce plan moral que nous avons le plus grave déficit. Alors, pour répondre à votre question, il est certain que les relations entre nous et la Grande-Bretagne, par exemple, seront toujours des relations qui ne pourront pas être des fusions. Nous avons eu toujours des conflits d'intérêts. Ce n'est pas le même tempérament. Il y a un côté réaliste et dominateur de la Grande-Bretagne qui ne correspond pas à un côté réaliste des Français. Je crois que, je reprends, c'est une idée qui est celle de ma génération. Nous avons connu, par exemple, l'alliance, la coopération franco-allemande avec De Gaulle. Il est certain que la France pourrait avoir, en effet, comme le dit votre correspondant de Moscou, une attitude, disons, de dégagement de l'OTAN et de rapprochement avec l'Est, mais ceci ne peut se faire qu'avec l'accord de pays européens. Et là, ce sera ma conclusion, nous payons très très cher notre politique des deux guerres mondiales, surtout de la première, dans laquelle nous sommes alliés en Angleterre, contre des intérêts communs qui étaient les intérêts de l'Europe de l'époque.
Donc, Pierre Dortiguier, la France n'a plus le moyen d'être un pays indépendant et va continuer à se soumettre aux désirs des États-Unis?
Oui, exactement. Permettez-moi cette comparaison dramatique. Comme un malade, par exemple, qui est sur un lit d'hôpital, a besoin de médicaments. Eh bien, ces médicaments nous sont fournis par les Américains. Nous n'avons plus la capacité d'assumer la vie par notre propre souffle, si je puis dire. Ce sont des images que je vous donne. Mais malheureusement, nous,
nous pouvons le dire, disons ma génération, je puis me permettre, peut le dire parce qu'elle a connu, dans les années 60, un espoir, elle a vécu justement ce rêve-là. Et ce rêve a été cassé, malheureusement il a été cassé par la gauche, il a été cassé par le Parti Socialiste. N'oublions pas deux choses, c'est que l'arrivée de l'idéologie socialiste au pouvoir, qui est celle aujourd'hui aussi de M. Macron, elle a permis le maintien dans l'OTAN, elle a permis aussi, je dirais une chose qui me vient à l'esprit, mais je me rappelle de M. Mitterrand allant s'excuser à la Knesset, en Israël, de la politique française, voyez-vous. Tout ceci, cette même gauche qui avait fait toutes nos politiques coloniales, qui a été la plus avancée, disons, dans l'asservissement, voyez-vous, aux Américains, eh bien, je ne crois pas que, malheureusement, que celle-ci, cette gauche qui est toujours dans les esprits, c'est pas une question de parti politique, voyez-vous, cette sorte de manque de courage, si je puis dire, qui nous caractérise, qui caractérise surtout la génération actuelle, je le dis avec sévérité, mais c'est exact, eh bien, évidemment, elle ne peut pas permettre, disons, ces bonnes idées, ces bonnes relations que notre correspondant de Moscou a données, nous pouvons le dire en paroles. Mais il n'y a pas que les paroles, il y a également la capacité, c'est ce qu'on appelle le courage, si je puis dire. Ça, ce courage-là nous fait défaut, et malheureusement, nous serons entraînés dans ce conflit inévitable, ce sera ma conclusion, entre l'Ouest et l'Est, que votre correspondant a marqué. Personnellement, j'y crois, c'est malheureusement une fatalité, et je ne crois pas que la France y soit préparée.
Fabrice Péor, est-ce que vous voulez bien réagir et conclure, je vous prie?
Oui, je porterai un bémol quand on dit le socialisme. Non, la gauche social-démocrate. Le socialisme, c'est une idée plus large et qui n'est pas responsable des social-traites qui ont été nommées auparavant, qui effectivement étaient responsables de la colonisation et qui effectivement, face à De Gaulle, ont tout fait pour trouver dans les États-Unis un allié pour arriver au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir, on ne va pas parler après des French American Productions et tout. Mais oui, maintenant, si, il y a toujours un espoir, même s'il est très faible, mais il ne peut exister pour la France de la classe politique. Qu'elle soit au pouvoir, qu'elle soit aux extrêmes, c'est cette même idéologie, effectivement, tout. Donc c'est une solution pour choc. Nietzsche disait que l'Europe se... pas d'une européenne, bien évidemment. Je pense que les gens, malheureusement, je dis bien malheureusement, réagiront, comprendront, refuseront cette propagande, parce qu'en France, la culture géopolitique historique aux relations internationales est très très faible, si ce n'est nulle, réagiront lorsqu'ils auront pu s'abonner à Netflix et ils auront pu assez pour nourrir leur famille dans le frigo. Malheureusement, c'est la situation dans laquelle se trouve. Malheureusement, la France, aujourd'hui, n'a pas une vie industrielle, n'a plus la force de sa prétention, et elle a une classe politique qui est totalement alignée et qui a démissionné. Ça commence à partir en fait de Giscard d'Estaing, qui ne croit plus dans le destin de la France. Quand vous avez des élites qui ne croient plus dans le destin de la France, vous avez aujourd'hui le résultat, un pays qui devient satellite du bloc occidental, c'est-à-dire l'impérialisme américain, et qui de temps en temps peut avoir quelques petits soubresauts, mais c'est des soubresauts du malade qui a des convulsions avant de trépasser. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation. C'est pourquoi aujourd'hui, je le dis, et ça va ma conclusion, pour l'Europe, l'espoir, il est à l'Est et la capitale s'appelle Moscou.
Fabrice Béor, expert à l'ONG et autres, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Ici, le Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest.
Dans une première réaction à la crise diplomatique entre le Liban et les pays, certains pays du Golfe Persique, de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, entre autres, avec le Liban, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a estimé que Riyad sait que la politique de pression sur d'autres pays a perdu son effet. Je pense que Riyad sait que la politique de pression sur d'autres pays a perdu son effet depuis un certain temps, a déclaré M. Khatibzadeh lors d'une conférence de presse à Téhéran, rapportée par l'agence de presse officielle IRNA. Il est naturel que l'Iran se tienne aux côtés des peuples du Yémen et du Liban, a-t-il ajouté. Dans une émission télévisée datant du 5 août et diffusée la semaine dernière, Georges Kordahi, qui a été nommé ministre le 10 septembre, avait qualifié d'absurde la guerre menée depuis 2015 au Liban par la coalition d'agression saoudienne comprenant à sa tête l'Arabie saoudite aux côtés des Émirats arabes unis, et estimé qu'il était temps qu'elle s'arrête. Selon lui, Ansar Allah se défend face à une agression extérieure et leur maison, leur village, leur mariage et leur enterrement sont régulièrement bombardés par la coalition d'agression. En réaction à ces propos, l'Arabie Saoudite a annoncé vendredi dernier qu'elle coupait les ponts avec le Liban en rappelant son ambassadeur à Beyrouth et en interdisant toutes les importations libanaises avant d'être rapidement suivi par les Émirats, le Koweït et Bahreïn. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bouhabib, a déploré la dureté saoudienne dans ses relations avec le Liban. Dans une interview avec une chaîne locale libanaise, M. Bouhabib a déclaré qu'il y a une dureté saoudienne envers le Liban qui est incompréhensible. Il a déclaré que les problèmes entre deux pays sont d'habitude résolus par le dialogue avant de rompre les liens, notant que Riyad n'avait jamais auparavant adopté une telle politique dans ses relations avec le Liban. Le ministre libanais a en outre déclaré qu'il n'y avait pas de désaccord entre le Liban et de tous les États du Golfe Persique. Oman et le Qatar n'ont pas rompu leurs relations avec Beyrouth et l'ambassadeur du Liban est toujours aux Émirats Arabes Unis. Entre-temps, le ministre libanais des Affaires étrangères a souligné que le gouvernement libanais sera maintenu, ajoutant qu'il avait été informé par le président Michel Aoun et le premier ministre Najib Mikati qu'il y avait un soutien international pour que le gouvernement poursuive son rôle. La province yéménite de Ma'arib jouit d'une importance géopolitique, militaire et économique dans l'équilibre des forces au Yémen, mais aussi en Arabie Saoudite. Si jamais les combattants aussi de l'organisation Ansar Allah, la résistance yéménite, en arrivaient à se saisir de Ma'arib, située dans une région qui contient l'essentiel des ressources en hydrocarbures du pays, Riyad perdrait le dernier bastion militaire unifié qu'il procède au Yémen, vu qu'Aden est partagé avec les Émirats ainsi que toutes les autres provinces contrôlées par l'Arabie à travers le territoire yéménite. En état des lieux d'abord, la province de Ma'arib borde la province d'Al-Jaouf au nord, d'Al-Baïza au sud, de Shabwa au sud-est, d'Azaramout à l'est et de Sana à l'ouest. Jusqu'à présent, 80% de la population de Ma'arib est contrôlée par les autorités du gouvernement de Sana, qui a normalisé la situation dans 12 des 14 districts, tandis que 20% de la population totale de la province reste sous le contrôle du parti pro-saoudien Al-Isla, une émanation des frères musulmans. Selon des estimations semi-officielles, environ 85% de la population tribale de Ma'arib est désormais sous le contrôle de Sana'a, tandis que la plupart des membres des tribus de Ma'arib ayant participé aux batailles assument des tâches sécuritaires administratives dans les districts libérés. Les 15% récents sont répartis dans Wadi Ubaïda, en dehors de la ville de Ma'arib, et sont sous le contrôle de Al-Isla. Selon des informations citées par le quotidien libanais Al-Akhbar, la plupart des chefs des tribus d'Ubaïda préfèrent la paix et épargner la ville de probables affrontements. Sana'a négocie depuis mardi dernier avec les tribus de Ma'arib pour les persuader de s'abstenir de combattre dans les rangs de la coalition d'agression saoudienne. Al-Akhbar a appris de deux sources tribales à Sana'a qu'il y a des pourparlers en cours pour épargner la ville et ce qui reste de Ma'arib, notamment Al-Wadi, la zone pétrolière de Safar. Et d'ajouter, le parti Al-Isla semble avoir perdu l'espoir de rester à Ma'arib, car des sources locales confirment la baisse des ventes dans les marchés de la ville et l'augmentation des ventes de maisons et de magasins appartenant aux dirigeants du parti, par crainte que leur propriété ne soit confisqué. Ces mêmes sources ont rapporté qu'Al-Isla a transféré ce centre financier depuis Ma'arib vers Wadi Hadramout et Al-Mora. Ma'arib est une passerelle nord-sud. Elle se trouve à environ 120 km à l'est de la capitale Sana'a et de Louyerolié par une grande autoroute. Elle se trouve également à proximité d'une autre autoroute qui mène au sud de l'Arabie saoudite. Sa position requiert son importance non seulement en raison de sa proximité avec Sana'a, mais aussi parce qu'elle se trouve sur un carrefour entre les régions du sud et du nord. La libération de Ma'arib signifie le renforcement des frontières d'un Yémen uni dans la région du nord du pays. La Syrie et la Jordanie concluent un accord sur le transfert d'électricité au Liban. Le Liban, la Syrie et la Jordanie ont conclu un accord pour transférer de l'électricité au Liban qui souffre d'une grave crise énergétique, ont annoncé les ministres des trois pays voisins. La Banque mondiale, qui a assisté à une réunion conjointe des pays participants, financera l'octroi d'un prêt pour importer, transporter de l'électricité au Liban, a déclaré le ministre de l'énergie du pays, Walid Fayyad. Les Américains ont donné leur feu vert au projet, a-t-il ajouté, faisant référence aux sanctions américaines contre la Syrie. En vertu d'un accord annoncé le mois dernier, l'Égypte fournira du gaz naturel au Liban via un gazoduc qui traverse la Jordanie et la Syrie pour aider à augmenter la production d'électricité du Liban. Le ministre jordanien de l'énergie de Salah Harabashid a déclaré que les trois parties se sont entendues pour fournir au Liban 150 MW d'électricité entre minuit et 6 heures du matin et 250 MW dans les heures restantes de la journée, précisant que la Jordanie fournira l'électricité via le réseau syrien. De son côté, le ministre syrien de l'électricité, Hassan al-Zamal, a déclaré que la réhabilitation du réseau de son pays serait achevée d'ici la fin de l'année, les ingénieurs effectuant déjà l'entretien et la réparation des dommages causés par plus d'une décennie de guerre. La ligne électrique n'est pas prête, il lui faut jusqu'à la fin de l'année pour être prête et nos équipes de travail travaillent 24 heures sur 24, a-t-il précisé.
C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.